Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, quand l'art se met au service du pouvoir, une série d'Élise Gruau réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des princes, des courtisans, des luttes de pouvoir, des rivalités et le désir d'accumuler le luxe et la beauté. Il y a l'image que l'on se fait de ce peintre appliqué à faire le portrait de celui qui le nourrit. Il en trace une image flatteuse, il le grandit, l'embellit ou le rajeunit. Il y a aussi les mille vies de Léonard de Vinci, courtisan, peintre, inventeur, ingénieur, militaire, décorateur et ambianceur, tendance, jeu de mots et papier crépon. Et il y a bien sûr les grandes galeries du château de Versailles où le décor peint, la débauche de luxe et le torrent d'allégories créent la puissance autant qu'ils la proclament. Mais tout ça est né bien avant, entre les pages des manuscrits. Alors pour commencer, les personnages. Un empereur, un conseiller et son disciple, une médiéviste, une conservatrice en gants blancs, un historien d'art, des collectionneurs, des moines minutieux, des commanditaires, le duc de Berry, un roi sage et les frères Limbourg. Ensuite, le décor. Des scriptoriums, des églises, des vitraux, du parchemin, de l'or sur une plume, de tout petits dessins, des animaux, des fleurs, des oiseaux et des fruits, la bibliothèque nationale, une écriture cabossée, la lecture à haute voix, les ruelles de Strasbourg, l'abbaye de Saint-Denis et des scènes hivernales. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive au monastère.
Dieu, l'enlumineur, le roi. L'image médiévale au service du pouvoir. Élise Gruau, Julie Béressy.
Au départ, la lecture était une lecture à voix haute où le scribe écrivait sous la dictée et celui qui lisait, pour saisir le texte, il fallait que il le prononce puisque on pratiquait ce qu'on appelait la scripta continua, donc les mots n'étaient pas coupés. Et c'est en disant qu'on trouvait la coupure. Alors, il se trouve que vers le 8e siècle, en Irlande, les moines qui copient les textes dans le latin de Saint Jérôme n'ont plus du tout accès à la connaissance de ce latin. Et l'oralisation ne produit plus pour eux le sens requis pour s'orienter dans le labyrinthe de la page. Donc, ils vont avoir recours à toute une série de signes visuels, de ponctuation. Donc là, il y a un véritable transfert de la sphère auditive vers la sphère visuelle et la page devient en quelque sorte l'outillage visuel permettant d'accéder à la lecture. Les mots sont séparés, les phrases sont terminées par des points, les initiales font l'objet d'une ornementation, la lettre historiée va être une sorte de miracle artistique qui permet de raconter la totalité de l'histoire. Si on évoque le martyr de Saint-Laurent sur son grille, on va avoir le L de Laurent dans lequel on voit un saint en train d'être grillé. Bon, et donc toute l'histoire et synthétisé en quelque sorte. Et quand, peu à peu, l'écrit va devenir une pratique silencieuse, à ce moment-là, on va voir fleurir à l'intérieur du livre une éclosion de peintures, de miniatures et d'approches par l'image du texte, en fait. Voilà. Donc là, il y a vraiment un tournant qui se fait par le silence qui tombe sur les pages, l'œil est vraiment sollicité, puisque dans la lecture, les repères ne peuvent plus être en fonction de la diction, mais ils vont être en fonction de l'œil, et ça va donner naissance à une véritable éclosion jusqu'au 15e et début du 16e siècle de miniatures, où on a dit et redit que la peinture était dans les livres.
Dans l'Occident médiéval, l'art visuel est né de l'écrit, pour servir le message biblique. La beauté sidère, et l'image est d'une efficacité sans égale pour marquer les esprits et inspirer un ordre civil. Très vite comprise comme un instrument de pouvoir, l'œuvre d'art est venue glorifier la puissance de Dieu et de ceux qui voulaient relayer son pouvoir sur terre. Le livre enluminé, support le plus mobile à l'époque, alliance du savoir et de la beauté, est l'objet de commandes toujours plus nombreuses de la part de commanditaires qui deviennent peu à peu de véritables bibliophiles. Sous l'impulsion de ces commandes et en composant avec les interdits qui pèsent sur l'image, l'image peinte dans les livres va se modifier pour servir les buts des mécènes, religieux, royaux ou laïcs, et les peintres enlumineurs vont inventer de nouvelles formes d'expression. Au fil des pages de parchemin, illuminées par l'or et les pigments rares, l'image va peu à peu s'affranchir du texte pour révéler toute sa puissance propre et son message se déporter du sacré vers un imaginaire plus profane. Précieux et fragiles, ces livres manuscrits demeurent aujourd'hui protégés dans les réserves des bibliothèques. Il faut partir à la rencontre de ceux qui ont passé leur vie à les explorer pour prendre la mesure de leur rôle dans l'histoire du pouvoir. Nous rencontrons à Strasbourg l'historien de l'art Roland Recht.
L'Église est devenue très vite commanditaire de toutes sortes d'images, illustrant notamment les évangiles, ou même illustrant l'Ancien Testament. Et cette demande a fait travailler très tôt des artistes. Ils ont eu des commandes nombreuses, aussi bien des verriers pour les vitraux, des sculpteurs, des peintres, mais aussi des orfèvres. Et par conséquent, ces commandes représentaient aussi la possibilité pour l'Église de diffuser très largement le message qu'elle voulait diffuser. Donc il y a presque une sorte de, on peut dire, de dictature des images à l'iconographie religieuse, chrétienne, pendant tout le Moyen-Âge. On ne pouvait pas échapper aux images, si vous voulez. C'est un peu ça le bien fondé de tout cela. On n'échappe pas aux images. Et il faut penser qu'une grande partie des messages figurés au Moyen-Âge sont destinés aux moines, c'est-à-dire à l'intérieur même du clergé, et d'autres sont destinés au public. Et cette distinction est, d'une certaine manière, l'explication de ce que Grégoire le Grand avait dit un jour, à savoir que les images sont faites pour ceux qui ne savent pas lire. Et les illettrés, comme les appelle Grégoire le Grand, sont ceux qui ne savent pas lire les textes sacrés. Ce n'est pas forcément qu'ils ne savent pas lire du tout, mais ils ne savent pas lire les textes sacrés, ils ne savent pas les comprendre. Et par conséquent, la représentation figurée doit les aider à comprendre le message de la Bible. Et ces images sont des images qui peuvent tout aussi bien orner des églises, des livres, orner des vitraux, etc., etc.
Ici, au musée de l'œuvre de Notre-Dame à Strasbourg, on a un exemple d'un très beau vitrail représentant l'empereur. Est-ce qu'on peut aller le voir avec vous, Roland Recht ?
Suivez-moi. Ce qu'on appelle le vitrail de l'empereur est un vitrail d'une très grande beauté, exposé donc dans cette salle du musée de l'œuvre Notre-Dame. Il a environ, on peut dire à peu près 2 mètres de haut, et il représente un personnage avec une robe bleue, un manteau rouge, bordé d'or, assis de face sur un trône. Le trône lui-même est orné, et le personnage est nimbé, et il porte une couronne. Il tient dans sa main gauche un globe, crucifère, donc avec une croix, et dans sa main droite un sceptre. Derrière le trône apparaissent 2 personnages, l'un qui tient un glaive, c'est celui qui est à gauche, et l'autre à droite qui tient ses mains devant lui. Ce vitrail est relativement bien conservé et on peut l'identifier avec de bonnes raisons comme étant une représentation de Charlemagne. Et ce personnage trônant, la figure de l'empereur trônant, aurait figuré dans la cathédrale de Strasbourg à la fin du XIIe siècle.
Donc on a ici l'exemple d'un empereur qui est représenté et non pas un saint.
Alors c'est les deux. C'est les deux parce que Charlemagne a été sanctifié et par conséquent il peut être à la fois empereur et saint. Alors dans la cathédrale il y a, et ça c'est tout à fait remarquable parce que c'est très exceptionnel, il y a dans le bas-côté nord toute une suite de représentations de rois du Saint-Empire germanique. Et la présence de personnages qui, eux, alors ne sont pas saints du tout, qui sont simplement des souverains, indique à quel point le pouvoir du souverain était important, même dans la conception de l'Église. Donc vous voyez, le monopole qu'aurait eu l'Église en utilisant les artisans, les artistes, pour lui fabriquer des images, eh bien, il y a très vite l'introduction d'un autre ordre, c'est celui des souverains, c'est celui du pouvoir, cette fois-ci laïque, en partie seulement laïque, dans la commande.
L'image médiévale ne reflète pas la réalité. C'est une représentation, et même quand on veut représenter le pouvoir, on donne une certaine idée du pouvoir.
Claude Gauvard, historienne.
Donc, on ne peut pas dire que l'image reflète le pouvoir, mais elle participe à sa définition. Elle permet de le construire. Et on voit bien que ceux qui ont commandé les œuvres et ceux qui les ont réalisées ont quelque chose à voir effectivement avec le pouvoir, parce que ce sont des grands, comme on les appelle, c'est-à-dire le roi, les princes, de grands seigneurs, qui, par le biais de l'image, veulent magnifier leur pouvoir, veulent aussi le définir. Et l'artiste, que ce soit des enluminures ou des tableaux, va répondre à l'attente de celui qui lui commande l'œuvre. Et ce résultat, ça n'est pas la réalité du pouvoir. C'est ce que le roi, les princes, les seigneurs, les élites en général, parce que ça peut être aussi des bourgeois dans les villes, veulent démontrer de leur capacité à gouverner, de leur capacité à croire aussi. Parce que à cette époque, le pouvoir politique n'est pas séparé de la religion. Je dis toujours que l'État est né dans le giron de l'Église, et c'est un lien viscéral entre la représentation de Dieu, la représentation de la Vierge, la représentation même du Christ et le pouvoir. Alors l'image médiévale, d'ailleurs, dans sa naissance, si vous voulez, elle est commandée par la représentation de l'Écriture sainte, qu'elle contribue d'ailleurs à compléter. Il faut bien comprendre que l'histoire religieuse, c'est une histoire en construction, toujours. Et que, par conséquent, tout concourt à la construire, depuis les évangiles apocryphes qui complètent les sculptures aux portes des cathédrales et l'iconographie enluminée ou les tableaux. Alors, la politique culturelle de Charlemagne, qui consiste à développer justement l'image, c'est d'abord une politique des monastères aussi, hein. C'est pas seulement Charlemagne qui commande, hein. Ce sont les monastères, c'est aussi une question de goût et de mode. Et les monastères participent de l'appui du pouvoir. Ils sont fondamentaux pour l'époque carolingienne. Ils sont les lieux où s'établit la culture.
L'époque de Charlemagne et, je dirais, la personnalité de l'empereur ont joué un très très grand rôle dans l'amorce d'une relation du souverain à l'art et de l'Église à l'art qui est absolument déterminante pour tout le reste du Moyen-Âge. L'époque de Charlemagne, c'est d'abord une époque qui, ça tout le monde le sait, a mis en valeur l'héritage antique, aussi bien littéraire que artistique. C'est aussi une époque où l'on a expliqué que les images sont fort utiles. L'époque carolingienne n'a absolument pas été hostile aux images, au contraire, les a valorisées, mais en expliquant en même temps les raisons pour lesquelles il faut les valoriser. L'autre élément, c'est la production artistique absolument énorme qui a eu lieu sous l'autorité de Charlemagne. On peut citer aussi bien évidemment des édifices, je pense à Aix-la-Chapelle, la chapelle palatine. On peut penser aussi, bien sûr, à la grande quantité de livres enluminés qu'il a lui-même commandé ou que son entourage fait d'intellectuel à commander. C'est une époque où véritablement les œuvres d'art sont là à la fois pour leur propre qualité esthétique et aussi pour porter un message. Alors le message, il est double, c'est celui de l'Église, mais c'est aussi celui du pouvoir.
Alcuin, c'était en quelque sorte le ministre de la culture de Charlemagne, celui qui avait été chargé de la rénovation culturelle en appui essentiellement sur l'écriture.
Anne Zally, conservateur en chef honoraire à la Bibliothèque nationale de France.
Voilà, donc l'invention de cette minuscule Caroline qui allait révolutionner complètement la lisibilité, l'élégance des copies, notamment des textes bibliques, mais aussi des textes anciens, puisqu'il y a vraiment une refondation de tout le savoir antique qui a lieu au moment d'Alcuin. Finalement, quand on voit les premiers manuscrits carolingiens, il y a un espèce de désordre des formats. Il y a des lettres qui sont très grandes, il y en a d'autres qui sont trop petites. Ça fait un effet à l'œil de pantomime un peu désorganisée où, comme si l'Empire cherchait ses fondements hiérarchiques, quoi, ce qui doit être en grand, ce qui doit être en petit, etc. Et là, en fait, c'est cabossé absolument de partout.
Qu'est-ce qu'on appelle la minuscule Caroline ?
La minuscule Caroline, c'est la nouvelle écriture qui est un chef-d'œuvre de lisibilité. Donc c'est une écriture ronde, régulière, au nom d'un projet impérial qui était un projet d'unification de l'Empire. L'Empire qui était quand même soumis à la pression rude des barbares à ses portes. Et Charlemagne qui rêve d'unifier son empire par cette coulée homogène d'une écriture latine, donc dans un latin unifié qui est le latin de Saint Jérôme, à laquelle vient s'ajouter peut-être l'importance de la ligne, c'est-à-dire que le scribe, en faisant couler son encre sur la page, rassemble des lettres pour faire des mots pour faire des phrases pour faire finalement l'unité de l'Empire. C'est une manière de rendre lisible le monde qui s'offre sous les yeux comme chaos et qui sort en quelque sorte l'écriture de la ténèbre pour l'organiser comme une sorte de coulée de lumière où, à travers ça, c'est l'ordre divin qui se rend lisible.
La place de l'enluminure dans les manuscrits carolingiens est indissociable de la question des images qui déchiraient la chrétienté au 8e siècle. Héritière des querelles iconoclastes et contrainte d'abord d'éviter la représentation figurée, l'image dans le livre naît du texte et naît de la lettre. Un art de l'ornementation tendant à l'abstraction, par le jeu sophistiqué des formes et des couleurs, se déploie avec une inventivité qui témoigne du talent des enlumineurs. En Occident, le statut de l'image se stabilise avec Charlemagne, qui, dans les livres carolins, rejette aussi bien la position iconophile que la position iconoclaste. Il énonce que la croix seule peut être objet de culte, mais reconnaît la fonction esthétique des images saintes. Cette position médiane, qui affirme le rôle pédagogique des images, ouvre la voie au déploiement d'une nouvelle iconographie.
Ce qui est intéressant à ce moment-là précis, c'est l'entrelacs profond entre le texte et l'image qui va permettre à Rabanmore de contourner l'interdit. Rabanmore, donc, c'est un moine né en 780 à Mayence, et il va aller chez Alcuin pour apprendre et s'initier à la pratique de l'écriture. Et il devient le disciple préféré d'Alcuin. Alors, il a énormément publié parce que c'est un esprit très curieux, très inventif. L'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le De Laudibus Sanctae Crucis, qui peut se traduire par éloge de la Sainte Croix. Et dans ce De Laudibus Sanctae Crucis, il contourne l'interdiction de l'image par une pratique très originale du poème figuré, du Carmina Figurata, et il va donc organiser son propos à partir de 28 planches. Ces 28 poèmes sont des sortes de pages entièrement carroyées. À l'intérieur de son fond carroyé, il trace le dessin d'une figure qui est toujours une anamorphose de la croix. Alors, il inscrit le texte d'un message, en quelque sorte, secret. Donc, la vision du monde, la vision qu'un homme peut se faire en écoutant un texte, Rabanmore la travaille par une proposition visuelle très précise, qui est celle d'une figure de croix dansante. Alors cette œuvre, elle se termine donc d'une manière originale, puisque toujours à l'ombre de la croix qui organise l'ensemble du traité, Rabban Mors s'est représenté lui-même comme moine en prière, tendant ses mains, ses longues mains d'artisan, vers la croix pour présenter son ouvrage en espérant obtenir le salut à partir de ce qu'il a écrit.
Le livre est certainement, tout au long du Moyen-Âge, le support le plus fréquemment commandé par le clergé ou par un personnage important et réalisé par un scribe. Et puis, peu à peu, le scribe lui-même introduit des ornements relativement discrets dans le livre. Et encore un peu plus tard, des artistes, des peintres sont également chargés d'un décor, alors beaucoup plus important. Cette fois-ci, ils peuvent faire des pleines pages, ils peuvent faire des, par exemple, des initiales qui occupent une grande place dans la page, etc., etc. Et puis, la situation change au XIIe siècle parce que les villes se développent. Donc, il y a une clientèle de plus en plus large pour l'achat de livres. Le livre plus rigoureusement destiné aux fidèles, c'est-à-dire, je pense par exemple au livre d'heures. Le livre d'heures, ce sont les heures de la journée ponctuées par des prières. Et donc, à ce moment-là, on s'achète un livre d'heures qui peut être muni seulement de quelques initiales décorées, mais on peut aussi commander des livres d'heures beaucoup plus richement ornés. Et donc cette situation change au cours du XIIe siècle, et en même temps, on assiste à un changement progressif du statut de l'artisan devenu artiste. L'enlumineur va devenir une personnalité de plus en plus indépendante, on pourrait dire, au statut de plus en plus envié par les autres artistes.
Et Roland Recht, à quel moment les commandes de livres enluminés vont être plus nombreuses et donner lieu à des évolutions notables dans l'expression ?
Alors on peut considérer que c'est déjà au cours du XIIIe siècle que les choses changent d'une façon tout à fait remarquable. Je pense par exemple au livre commandé par, évidemment, Louis IX, par Saint-Louis, qui a été un très très grand bibliophile, où l'on voit comment Louis IX commande des livres, d'une part, mais aussi porte un très grand intérêt aux peintres qui travaillent pour lui. Ou encore, on peut considérer qu'au tout au long du XIVe siècle, regardez par exemple l'œuvre de Jean Lenoir ou de Jean Pucelle, qui sont des artistes à part entière, qui ont une entière liberté pour organiser l'espace du livre, organiser l'espace de la page. Par exemple, lorsque Jean Pucelle emprunte à la peinture italienne, disons giottesque, des structures architecturales, des perspectives, une véritable scénographie extrêmement subtile, là, la page n'existe plus en tant que page. Elle est totalement traversée par la représentation figurée. Donc ces peintres prennent de plus en plus d'importance parce qu'ils prennent aussi de plus en plus de liberté, mais une liberté qui est en fait le résultat de leur grande culture artistique. Ils introduisent des idées nouvelles venues d'autres pays, venues en particulier des peintres du début du Trecento italien. Et puis au cours du XIVe siècle, les choses se compliquent encore parce qu'on va de plus en plus souvent assister à des commandes de livres qui sont faites par de véritables bibliophiles. Avec les souverains comme Charles V et ses frères, nous entrons dans une autre relation au livre, où ce sont des bibliophiles, ce sont des collectionneurs. Jean Berry est le plus pathologiquement collectionneur. Donc là, on recherche des artistes extrêmement doués, et on voit bien là comment les premiers tableaux de chevalet s'organisent au sein du livre. Les petits tableautins que peignent les limbourgs à l'intérieur des livres sont absolument aussi utiles que d'avoir chez soi des tableaux.
Marie-Hélène Ténière, où nous trouvons-nous ici ?
Alors, ici, nous sommes au centre de Paris, au cœur du site Richelieu, de la Bibliothèque nationale de France, dans la salle du département des manuscrits, là où nos lecteurs viennent consulter des manuscrits, donc écrits à la main, depuis avant Jésus-Christ jusqu'au XXIe siècle. Je vais vous montrer quelques manuscrits de la bibliothèque que Charles V avait réunis au Louvre, près de 1200 volumes. Alors Charles V est pour nous un roi extrêmement important puisque c'est lui qui a organisé la première bibliothèque qui est pratiquement l'ancêtre de notre Bibliothèque nationale de France. Il est le premier à avoir considéré la bibliothèque et le savoir comme un instrument de pouvoir et le premier à organiser une bibliothèque en français et une bibliothèque qui est transmissible. En ce sens, c'est une première bibliothèque royale.
Marie-Hélène Ténière, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.
Et donc le roi Charles V se considère comme un émule de Salomon, le roi sage et juste, et de Ptolémée, le roi qui a fait construire la Bibliothèque d'Alexandrie. En 1380, il y a 1200 manuscrits dans la Bibliothèque du roi. 1200 manuscrits, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un chiffre absolument exceptionnel, puisque la Bibliothèque de la Sorbonne, qui est une bibliothèque universitaire, elle n'en compte que 1800. Donc 1200 manuscrits pour un prince dont l'essentiel est en français, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Est-ce qu'il réunit des livres existants ou est-ce qu'il passe commande pour créer ces livres ?
Il faut bien imaginer que le roi, il n'a pas réuni 1200 volumes d'un seul jour et que cette bibliothèque n'est pas née d'un seul ex nihilo. Il est vraisemblable qu'il y avait déjà un embryon de bibliothèque, certainement une bibliothèque constituée sous Jean le Bon, qui était le père de Charles V, et même sous Philippe VI de Valois, qui était son grand-père. Donc le roi va hériter, c'est vrai, d'une partie importante. Mais aussi, et c'est ça qui est aussi exceptionnel, le roi est un bibliophile. Donc il a un sergent d'armes qui s'appelle Jacques Beauchamp, qui a une très belle bibliothèque. Il lui dit, donnez-moi la liste de livres que vous avez dans votre bibliothèque, et il complétera sa bibliothèque au fur et à mesure. D'autre part, il va en faire. Donc en particulier, il fait traduire en français des grands textes comme les textes d'Aristote, qui étaient connus à travers le latin, la cité de Dieu de Saint-Augustin, etc. Les traductions se font de latin en français. Le français, pour la première fois, est considéré comme essentiel. Parce que vous savez que le roi d'Angleterre voudrait être roi de France. Simplement, la difficulté, c'est qu'il ne parle pas français. Et donc là, en pleine guerre avec l'Angleterre, c'est important que le roi valorise la langue française comme la plus belle langue, en fait. Et donc, il suscite des traductions en français, de sorte que le français devient une langue savante à l'image du latin. On considérait jusque-là le latin comme la langue de savoir. Et donc le roi, étant le roi sage, etc., représentant une forme de savoir, il fait du français lui-même une forme de savoir importante. Il y a en quelque sorte une unification culturelle qui se fait par ce jeu-là. Alors. Donc là, c'est la cité de Dieu de Saint-Augustin, traduite en français par Raoul de Presles. Sur la gauche, vous avez la représentation de la cité. La cité de Dieu, en haut, la cité céleste. En bas, l'enfer, avec toutes sortes de petits diables qui emmènent des évêques et d'autres personnages dans les fourneaux de l'enfer. Et puis au centre, vous avez une représentation des trois religions, paganisme, christianisme, avec une représentation de la messe, et judaïsme. Et sur la droite, vous voyez la scène de dédicace. Vous voyez le petit clerc, Raoul de Presles, ici, qui offre son livre, agenouillé devant Charles V. Ça, c'est un texte pour l'image du roi est extrêmement importante, puisque dans le prologue, Raoul de Presles raconte la légende des fleurs de lys, que le roi de France tient son pouvoir de l'autorité, de l'onction royale, en tête d'un manuscrit de la Cité de Dieu, quelque chose qui n'a rien à y faire fondamentalement, qui est un manifeste de l'autorité du roi, en fait.
La bibliothèque de Charles V installe le pouvoir du roi en montrant qu'il s'appuie sur des fondements idéologiques, Saint-Augustin, la Bible, les prières, les livres d'heures, et puis, du point de vue de l'idéologie, les traductions d'Aristote, c'est quand même important, le traité du Sacre de Jean Gaulin. Donc vous avez là des livres qui font appel à des courants philosophiques, Aristote, à des courants religieux, Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est le père de tout pouvoir. C'est lui qui a quand même défini la cité de Dieu. cité de Dieu, cité des hommes. Et par conséquent, c'est lui qui montre que le roi a une mission qui est celle de sauver les âmes de son royaume.
Il considère la bibliothèque comme une prérogative royale. Et on va le voir dans la manière dont il se fait représenter devant une roue à livres comme un fondateur de la bibliothèque. On va le voir dans les manuscrits. Donc le premier manuscrit qu'on peut considérer, c'est le Polycrate de Jean de Salisbury, donc qui est un auteur du XIIe siècle, qui est traduit pour Charles V. Et là, c'est la figure emblématique du sage roi, puisque vous voyez ici Charles V en costume du sacre, avec les chausses dorées, les gants blancs, portant la couronne, qui reçoit de la main de Dieu la sagesse divine, il est donc le roi sage, et en même temps, il est assis devant une roue à livres, c'est-à-dire une sorte de bibliothèque tournante que vous voyez ici, sur lequel est écrit en latin une phrase de l'Ecclésiastique, « Il est heureux celui qui vit dans la sagesse et dans la justice ». Et donc ça, c'est la figure emblématique du sage roi et du fondateur de la bibliothèque royale. Donc c'est une image tout à fait symbolique. Et vous avez plus loin l'image concrète de ce que ça représente pour les hommes de son temps. Ici, vous voyez dans la lettre historiée, le peuple, si vous voulez prendre la loupe, vous voyez le peuple qui est en prière et qui, sous un phylactère qui écrit « Benedicta terra cuius rex sapiens ». Elle est heureuse, la terre dont le roi est un sage. Et là, vous voyez la foule qui prie Dieu ici. Là, vous avez le roi. Là, vous avez les hommes de savoir, parmi lesquels, vous voyez, sont écrits les pères de l'Église. Et puis, en plus, il y a Cicéron, il y a Salomon et David. Et là, vous voyez le reste du peuple, dans lequel on remarque les clercs, avec leurs manteaux bordés d'hermine et leurs chaperons. Et puis, la noblesse qui part à la chasse aux faucons et à la chasse à cour. Pour bien dire que le roi règne sur tout cela.
Dans cette image, est-ce que c'est le roi qui indique quel message doit être véhiculé ?
Non, en réalité, ce n'est pas le roi, mais probablement ses conseillers clercs, c'est-à-dire ceux qui entourent le roi, qui sont à la fois des théologiens et des juristes. Et c'est manifestement eux qui indiquent à l'enlumineur ce qu'il doit représenter. Il faut se rappeler aussi que le roi, pour les livres qu'il fait faire, il a deux types d'ouvrages. Il y a un livre pour sa personne privée, ce sont les livres qu'il va lire dans son étude, qu'il va lire quand il est en voyage, semble-t-il, et puis un livre pour sa personne publique. Et ceux qui sont pour sa personne publique, ce sont les très grands volumes. Donc on a en particulier pour la Cité de Dieu, on voit bien qu'il y a deux types de livres. Pour les textes d'Aristote, il y a aussi deux types de livres. Donc il y a le livre qui sert à l'image qu'il donne aux autres. Et en particulier, on sait, parce que nous raconte Christine de Pizan, que l'après-midi, après la sieste, il allait dans son étude et que là, il montrait ses joyaux aux ambassadeurs.
Les livres enluminés, ils sont faits pour être lus, point d'interrogation ? Pas sûr. Ils sont faits pour être lus quand on parle par exemple des livres d'heures, qui sont des livres de prière, pour des princes ou pour des particuliers assez riches pour se les payer. Oui, ils sont lus ceux-là. On voit qu'ils ont été ouverts. Mais beaucoup de livres médiévaux, enluminés, valent autant par leur fermoir, qui coûte très cher, parce qu'il peut être en or, en argent, avec des pierres précieuses, que par les enluminures qui sont à l'intérieur. Donc, ils ne sont pas lus. Et de toute façon, ils sont dans des bibliothèques où ils constituent un trésor. Ils font partie du trésor. Quand on décrit le trésor d'un prince, et à plus forte raison celui du roi, qu'est-ce qu'on décrit ? Sa bibliothèque, ses joyaux, ses archives les plus précieuses. C'est ça, le trésor du roi.
Et alors, à quoi servent-ils ?
Eh bien, ils servent à thésauriser, d'abord, à échanger entre les princes. Le duc de Berry, qui est un grand mécène du début du XVe siècle, a des joyaux, il a des livres, et il les échange et il les donne, par exemple, en étrenne, ou pour remercier tel ou tel de ses fidèles. Il y a une circulation, si vous voulez, des objets d'art entre les princes qui sert à faire valoir le prince. C'est ça, si vous voulez, d'abord. Le trésor fait partie de l'honneur du prince. Ce mot, il me semble très important, le mot honneur, parce qu'il est à la fois l'image que l'on veut donner de soi-même et l'honneur au sens primitif, c'est-à-dire la richesse et la fondation territoriale. Il y a une part de démonstration dans le pouvoir, très importante, démonstration du pouvoir.
Parce que c'est un manuscrit emblématique, les Grandes Chroniques de France. Vous voyez, même la tranche est illustrée par des fleurs de lys sur fond bleu.
Donc des fleurs de lys d'or, d'or sur fond bleu.
C'est un volume essentiel, puisque c'est celui qui raconte toute l'histoire officielle de la France. Ils sont écrits dès la fin du XIIIe siècle à l'abbaye de Saint-Denis. Et à partir du règne de Charles V, ils sont écrits non plus à l'abbaye de Saint-Denis, ils sont écrits à la cour du roi, à la chancellerie. Donc le roi fait écrire l'histoire comme il l'entend. Ça, c'est une chose importante, qui est particulièrement importante à cause de la fin, en fait, vous allez voir. Vous savez que l'empereur Charles IV est venu en 1378, donc c'était l'oncle de Charles V, visiter le roi de France. Et donc, à cette occasion, l'illustrateur a montré les différents moments de l'arrivée du roi, de l'empereur Charles IV à Paris. Donc vous voyez que le livre, il a aussi une fonction de, comme aujourd'hui la photographie au fond. Et donc là, vous voyez, c'est l'arrivée de l'empereur Charles IV que l'on voit ici avec la couronne fermée. Là, c'est son fils Venceslas, donc le roi des Romains. Et puis, vous voyez le roi de France qui est là, qui bien sûr est le seul à être sur un cheval blanc, parce que le blanc est la couleur de la souveraineté. Et il est accueilli sur le chemin, donc là, il va entrer à Paris, par les parlementaires que l'on voit ici avec leur masse et qui sont habillés de blanc et de mauve. Et puis, autre moment important que l'illustrateur, et on voit d'ailleurs la taille de la miniature qui prend pratiquement les trois quarts de la page, a voulu mettre en valeur, c'est ceci, la réception, on va dire, de l'empereur Charles IV au palais de la Cité, dans la grande salle d'apparat.
Et l'enluminure est d'un format d'à peu près 20 cm sur 15. On a trois scènes très complexes qui sont racontées. Le banquet de réception entre Charles V et l'empereur Charles IV, les croisades qui sont évoquées, la prise de Jérusalem. On voit ici résumé l'efficacité de l'image à l'intérieur.
Oui, c'est tout à fait ça. Et on verra plus tard, au XVe siècle, en fait, lorsque les enlumineurs auront à raconter comme ça des histoires complexes, en fait, ils vont faire des petits cadres pour chacune des histoires, de manière un peu différente, tandis que là, tout est encore sur la même page.
Et si ces livres très précieux sont conservés, enfermés dans un coffre, dans le trésor royal, où s'exerce l'efficacité de l'image ?
Ah, elle s'exerce de façon subtile. Alors là, il faut faire appel à Kantorowicz. C'est l'idée que ce trésor, c'est le corps d'une royauté justement qui s'est transmise de façon formidable depuis les origines troyennes. C'est un corps qui ne meurt jamais. L'historien Kantorowicz a montré très bien ce qu'étaient les deux corps du roi. Un corps qui ne meurt jamais, un corps pérenne, qui est celui de l'État, en quelque sorte, de l'État royal. Et puis, le corps mortel du roi, celui qui, effectivement, va grandir, puis devenir adulte, puis mourir. D'ailleurs, il y a dans les grandes chroniques des représentations des funérailles, qui montrent très bien ce double corps. C'est-à-dire que vous avez le cercueil, et puis au-dessus, l'effigie, qui, elle, est celle d'un roi qui est presque idéalisé, comme celui des gisants de Saint-Denis. Il y a là, bon, ce double corps qui fait que la foule peut pleurer sur le passage du corps du roi, même du corps malade de Charles VI, devenu fou depuis 1392 et mort seulement en 1422, ce qui ferait quand même quelques années de folie, et dire « qu'est-ce que nous allons devenir maintenant ?» que tu nous as laissé. Donc il y a cette foule qui est sur le côté, et puis il y a l'idée, justement, que le corps royal, de l'État royal, lui ne va pas mourir et qu'il se perpétue dans un état qui est en pleine construction, effectivement, à l'époque médiévale, dans cette période-là, des 14e et 15e siècles, et qui est un état qui se dote d'officiers royaux, qui sont justement les garants de cette continuité monarchique.
En quoi les objets d'art permettent au corps du roi, au corps royal, de se perpétuer ?
Ah ben, écoutez, dans les objets d'art, il y a justement toutes ces représentations symboliques qui sont là. Bon, par ailleurs, il y a ces bibliothèques qui sont léguées et ils se transmettent. Donc, il y a là une continuité, vous voyez. Bon, les joyaux font partie du trésor, justement, de ce qui est pérenne. Tout cela est à côté des archives, et ça qu'il faut bien comprendre. Et où est-ce que c'est conservé, tout cela ? Les joyaux et les archives fondamentales du royaume, ce qu'on appelle le trésor des chartes actuellement, et ce qui est conservé précieusement au sein des archives nationales de France. Eh bien, tout cela est dans une pièce attenante à la Sainte-Chapelle. Il y a un lieu proche des reliques dans lequel sont conservés les éléments pérennes de la royauté française. Et les livres sont partie prenante de ce trésor, qui lui ne meurt jamais.
On va assister à la multiplication des images, mais aussi à un changement de contenu des images. On peut prendre l'exemple des trériseurs du duc de Berry, où on voit par exemple dans le calendrier comment les peintres développent l'aspect, j'allais dire presque documentaire de l'image. Et cet intérêt pour le détail suppose une grande observation de la part du peintre. Il suppose qu'il ait vu des ouvriers travailler, des paysans travailler dans les champs, quels outils par exemple ils employaient, ou encore le décor. La plupart de ces images ont pour décor un château qui appartient soit au duc de Berry, soit à un de ses frères. Et cette image a un caractère documentaire. Donc, l'artiste a de plus en plus de place pour s'exprimer. Et il a de plus en plus une liberté de s'exprimer. Il est bien évident que le duc de Berry n'a pas dit aux Limbourg, vous allez faire exactement ceci. Les Limbourg sont des créateurs d'un très haut niveau. Donc, ils n'ont pas besoin de ces indications-là. Donc, ils ont une liberté, eux aussi, qu'ils appliquent à la décoration du livre et qui fait le prix de ce livre commandé par le prince.
Alors, bienvenue dans la bibliothèque du musée Condé. Et parmi les riches collections du musée Condé, on conserve une bibliothèque extraordinaire, peut-être la deuxième bibliothèque en France après la Bibliothèque nationale, avec un fonds considérable de manuscrits, notamment de manuscrits enluminés.
Mathieu Deldic, conservateur au musée Condé à Chantilly.
On vous a sorti un certain nombre de nos chefs-d'œuvre, dont Les Trériseurs du duc de Berry, peut-être le manuscrit le plus célèbre au monde, qui figure parmi les joyaux mondiaux, finalement, de l'enluminure médiévale. Et il va devenir célèbre parce que c'est un peu l'hyper-Moyen-Âge. Un Moyen-Âge quasiment fantasmé, un hyper-gothique, avec des scènes seigneuriales. Là, vous avez le duc de Berry, une scène de banquet avec le duc de Berry qui reçoit dans son château, avec ses courtisans, avec une table dressée, avec un buffet d'orfèvrerie, avec des tapisseries. Donc, on a des images très lisibles, très compréhensibles, très précieuses, évidemment. Ce sont des véritables tableaux. On a tout ce calendrier qui montre finalement le Moyen-Âge rêvé, le Moyen-Âge seigneurial, le Moyen-Âge aussi paysan. Là, vous êtes devant l'enluminure du mois de février. Vous avez une scène d'hiver, une des premières scènes hivernales de l'histoire de l'art occidental. Vous avez des paysans qui se réchauffent au coin du feu. Et à l'extérieur, vous avez un paysage assez réaliste, un paysage rural, champêtre, enneigé. Et puis, ces scènes courtoises, des scènes de fiançailles, d'épousailles, de chasse, toujours devant des représentations de châteaux qui ont existé, notamment de châteaux qui ont appartenu au duc de Berry.
Ce qui est remarquable dans ce manuscrit, c'est que les peintures occupent quasiment des pages entières à chaque page.
Exactement. En fait, on a l'impression aussi que c'est un prétexte, un livre d'heures. C'est un prétexte pour avoir des livres très enluminés, quasiment entièrement enluminés. Et ce sont des livres qui sont des sortes de vitrines. Ce n'ont pas des livres de voyage qu'on transportait pour voir suivre les prières. On ne sait pas s'il était vraiment utilisé, finalement. Ce sont finalement la vitrine du faste et du goût d'un mécène, enfin d'un des plus extraordinaires mécènes que le Moyen-Âge ait connu.
Qu'est-ce qu'il veut montrer ? Le duc de Berry, il veut montrer une France idéale. Une vie idéale qui est celle du pouvoir des princes. Réfléchissons un peu. Les très riches heures, il veut montrer une vision idéale alors que la conjoncture économique et sociale est totalement différente. La misère est grande, les paysans sont loin de cultiver comme ils le montrent les terres attenantes à la ville ou à des châteaux de façon tranquille. Les paysans sont sans cesse sur le qui-vive. Parce que la guerre civile a succédé à la guerre contre les Anglais et très vite, la guerre contre les Anglais reprend à partir de 1412. Donc la guerre impose de venir se protéger à l'intérieur des murailles. Est-ce que vous voyez des scènes de ce genre ? Bien sûr que non. Vous avez des scènes idylliques de paysans se chauffant devant la cheminée. Vous avez des scènes idylliques de paysans labourant, de femmes ramassant des fruits ou de vignerons taillant la vigne. Et puis, des seigneurs qui s'en vont sur leurs chevaux, richement parés. Est-ce que c'est ça la vie quotidienne ? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que cette vision ? C'est une vision à la fois politique mais aussi religieuse. On a l'impression, si vous voulez, que le trésor du duc de Berry, c'est quasiment la vie dans un paradis. Alors peut-être un paradis perdu. C'est-à-dire que finalement, toutes ces images sont des sortes de miroirs au prince. On imagine, nous, et on a très longtemps travaillé comme ça, en pensant que les miroirs au prince reflétaient la réalité. Autrement dit, le prince serait né tout armé, avec la justice, la main de justice d'un côté, le globe de l'autre pour l'empereur. Mais non, tout ça, ce sont des constructions. Et ces miroirs au prince donnent l'image d'un prince idéal, qui serait vertueux, bien entendu, forcément, mais en même temps justicier depuis le départ. Mais non, la justice, c'est une construction. Et je peux vous dire que les Capétiens ont lutté pour imposer la justice.
Et quand est-ce qu'on s'est rendu compte que tout ça a été déconstruction ?
Ah, c'est la déconstruction actuelle, ça. Bon, disons que depuis une trentaine d'années, quoi.
Donc c'est très récent. Et,
ah oui, c'est récent.
Ce qui veut dire que ces images ont été efficaces ?
Ben oui, sans doute. Elles l'ont été dans l'historiographie, oui, bien sûr. Autrement dit, l'image médiévale, ça fait réfléchir.
Sous l'impulsion des mécènes, les artistes ont exalté les pouvoirs de l'image en elle-même. Le duc de Berry, frère du roi Charles V, fut le collectionneur le plus avide et le plus féru d'art, n'hésitant pas à commettre des exactions pour obtenir de l'argent et commander de nouveaux chefs-d'œuvre. Dans les très belles heures de Notre-Dame, qu'il commanda à Jean Van Eyck vers 1420, la peinture investit des pleines pages et l'image, émancipée du texte, semble franchir le dernier pas avant de quitter le livre vers le tableau peint.
Le fameux livre appelé « Les très belles heures de Notre-Dame », c'est un des grands chefs-d'œuvre de l'enluminure médiévale et en même temps, c'est un cycle qui clôt l'histoire de l'enluminure médiévale, puisque l'auteur est vraisemblablement Jean Van Eyck. Alors, ces images sont surprenantes par beaucoup d'aspects. L'une montre la naissance de Saint Jean-Baptiste. La scène du haut, la plus grande, montre un intérieur de chambre avec un lit à baldaquin dans lequel est couchée Sainte Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et c'est une scène quotidienne. Il y a un grand coffre ouvert avec des objets, des livres notamment, un chien et un chat. Et au fond de cette chambre, une fenêtre et à droite une porte. Et on voit des personnages dans cette pièce. Et là apparaît un rayon de lumière. Il n'y a rien ici de très religieux. Si on ne sait pas ce que ça représente, on peut très bien penser que c'est une scène de vie quotidienne. Et puis plus bas, de nouveau, un bas de page, qui est une beauté tout à fait, je dirais, vraiment indescriptible. Il s'agit du baptême du Christ par saint Jean. Et cela se passe dans un paysage à la fois fluvial, un château sur la gauche, une montagne ou des collines tout au fond du tableau, et des nuages qui passent dans le ciel. C'est sans doute le premier paysage de la peinture médiévale qui soit fait avec un tel raffinement, une telle recherche d'effet. Et on peut dire qu'il faudra attendre le XVIIe siècle hollandais pour avoir l'équivalent de cette sensibilité à la nature. Alors, c'est l'œuvre de très grands artistes, de très grands inventeurs, qui ont complètement dépassé, je dirais, la stricte obéissance à une commande pour se passionner pour des détails, pour des points de vue sur les choses qui ne mettent plus en valeur le caractère sacré de tout cela, mais qui mettent en valeur le lien que tout cela partage avec le monde quotidien. Faire de telles images supposait une totale liberté des artistes. Et comme on peut le savoir, les Van Eyck vont être aussi les premiers très grands peintres de panneaux dans les années 20, 30, 40 du XVe siècle. C'est un travail sur le détail, si vous voulez. C'est un travail qui s'attache à montrer le monde comme une sorte de microcosme, donc dans lequel on peut toujours découvrir davantage de choses dans la représentation du monde. Et au fond, on a le sentiment que tous ces peintres, les Van Eyck et leurs contemporains, avaient le souci de rendre ces images, pour ainsi dire, indescriptibles. C'est là que le pouvoir du peintre s'affirme, en réalité. Il est capable de faire une chose que l'écriture ne peut pas faire, l'écriture ne peut pas rivaliser avec lui. Le pouvoir de l'image, ici, devient plus important encore que le texte. Alors, on est quand même encore dans un livre qui est un livre religieux, évidemment. Néanmoins, le temps qu'on peut passer à examiner chaque détail d'une telle page est beaucoup plus long que les quatre lignes de texte qu'elle comporte et nous entraîne dans un imaginaire, si je puis dire, beaucoup plus largement profane que le texte sacré ne le réclamerait.
C'était Dieu, l'enlumineur, le roi, l'image médiévale au service du pouvoir. Avec Roland Recht, historien de l'art, professeur honoraire du Collège de France, chaire d'histoire de l'art européen, médiéval et moderne. Claude Gauvard, historienne médiéviste, professeur émérite de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Marie-Hélène Ténière, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, en charge du projet de la librairie de Charles V. Anne Zali, conservateur en chef honoraire, ancienne directrice du service de l'action pédagogique de la Bibliothèque nationale de France. Et Mathieu Deldic, conservateur au musée Condé à Chantilly. Merci à Jean-François Pignol et ses élèves de 5e du collège Lucie et Raymond Aubrac de Paris. Prise de son, Jean-André Giannichini. Mixage Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Julie Bérécy.
SD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous lancer dans les enluminures, bibliographie, lien, nous podcaster pour la bibliothèque ou nous réécouter au monastère, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode de la série, Les Médicis et l'art au service du pouvoir.